Dialogue sur la mort. Une émission proposée par Christian de Cacret.
Amis auditeurs des dialogues sur la mort et donc sur la vie, bonjour. Notre invitée aujourd'hui est une diplômée d'HEC qui a travaillé dans l'univers du disque, de la publicité et de l'édition de contenu numérique. Elle a été par ailleurs pendant 10 ans bénévole dans une unité de soins palliatifs à Paris, expérience qui lui a inspiré un roman intitulé « L'écharpe oubliée » et qui est publié chez City Éditions. Laure de Pierrefeu, bonjour.
Bonjour Christian.
Alors première question, parce que il me semble que l'évocation de cet accompagnement bénévole auprès de personnes en fin de vie a donné lieu à des récits, des écrits, je dirais pas multiples, mais la voix romanesque me paraît très originale. Alors, évidemment, la question que je me pose, après avoir lu votre excellent ouvrage, c'est qu'est-ce que la voix romanesque vous a permis de dire de plus que ce que vous auriez simplement dit en rendant compte de telles ou telles expériences réelles ?
Alors, je ne sais pas si elle me permet de dire des choses en plus, mais peut-être de les faire vivre différemment. C'est vrai qu'il y a énormément d'ouvrages qui sont parus sur l'accompagnement, la fin de vie, et puis ce sont des thèmes d'actualité donc qui ont suscité de nombreux ouvrages. Mais là, la forme romanesque, pour moi, est vraiment une forme d'immersion pour le lecteur. Il va vivre ce que vit mon personnage principal, qui est donc une femme d'une quarantaine d'années qui accompagne des personnes en fin de vie. Et à travers elle, le lecteur va être plongé dans un quotidien d'hôpital, d'unité de soins palliatifs, qui sont des endroits qui font peur, avec des mots très forts, soins palliatifs, mort, etc. Et c'est cette familiarité que j'avais envie de transmettre. Et la forme romanesque, pour ça, me paraît idéale. On est le personnage, on vit ce qu'elle vit, on ressent ce qu'elle ressent. Enfin, si le contrat avec le lecteur se passe bien et si le lecteur adhère à la lecture, ce qui n'est pas toujours gagné. Mais voilà, il y a vraiment ce côté très vécu et non plus documentaire, aussi pertinent, fouillé, synthétique, argumenté soit-il.
Alors Claire, l'héroïne de votre roman, qui parle à la première personne du singulier, donc on pourrait imaginer que c'est vous, dans la vraie vie, entre dans une relation tout à fait extraordinaire, ça tout lecteur le comprend, avec un certain Henri. D'ailleurs, très vite, l'équipe soignante et les accompagnateurs des accompagnateurs s'en inquiètent, enfin, marquent des limites. Et Claire va souvent, après des réunions, se désénerver dans les toilettes, tellement elle en sort à bout de nerfs, parce qu'elle sent qu'on la regarde de travers, parce qu'avec cet Henri, elle va trop loin. Alors, pourquoi avoir choisi ce trop ou ce plus? Et qu'est-ce que vous avez voulu nous dire à travers cette expérience si singulière ?
C'est vrai que Claire sort du cadre assez vite, puisque pour rappeler quand même le cadre de ce bénévolat, on est dans une posture en tant qu'accompagnant bénévole des malades, d'une forme de neutralité qui est vraiment posée comme raison d'être, et puis de toujours être à une juste distance, de ne pas s'impliquer affectivement, émotionnellement. Et ça, c'est une mesure de protection pour le bénévole, parce que si on s'attachait à tous les malades qu'on voit de façon démesurée, on en souffrirait beaucoup, comme on en voit beaucoup. Donc il y a cette forme de retrait, de neutralité, de distance, ne jamais consoler, ne jamais conseiller, ne jamais agir. On est vraiment dans une présence pure, avec une écoute bienveillante, active.
Ne jamais s'imposer, j'imagine.
Voilà, ne jamais s'imposer. Et tout l'art du bénévole, c'est de rentrer en contact avec un malade sans s'imposer. Donc il y a tout un art de rentrer dans la chambre. J'en donne quelques exemples avec des personnages secondaires du roman. Donc voilà, il y a cette posture-là. Mais là, effectivement, la rencontre déborde. C'est presque une rencontre amoureuse entre Henri et Claire. Il y a une reconnaissance évidente qui dépasse le cadre de la rencontre, qui est cette fin de vie pour cet homme. En fait, ils ont beaucoup de choses en commun qu'ils vont découvrir au fur et à mesure du récit. Qu'est-ce que j'ai voulu dire en relatant cette rencontre ?
Est-ce que vous avez voulu, par exemple, montrer que c'était possible, malgré tout ce que vous venez de nous dire sur la juste distance, c'est-à-dire qu'il peut se faire qu'on aille plus loin dans cet accompagnement ? Finalement, que ça devienne non plus un bénévole en accompagnement en soins palliatifs et un malade, mais deux êtres humains, et qui sortent, comme vous l'avez dit, du cadre, exceptionnellement, sans que ça prenne des proportions...
Alors, c'est effectivement une chose à laquelle on est toujours très vigilant en tant que bénévole, c'est de faire la part des choses, de ce qu'on a vécu dans une chambre, et de... Parfois, on a envie d'aller plus loin. Oui, on a envie d'être ami avec la personne, on a rencontré des familles, et on a cette tentation. Et souvent, elle est même dans l'autre sens. Ce sont les familles ou le malade lui-même qui demandent plus. Et c'est vrai qu'il faut être vigilant et le cadre est là pour nous le rappeler. Mais comme tout cadre, comme toute règle, ils sont faits parfois pour être transgressés. Et c'est cette transgression, moi, qui m'intéressait d'un point de vue romanesque. Sinon, le livre n'aurait pas eu de sens si je n'avais pas pu déborder pour raconter autre chose, parce qu'il y a une intrigue dans l'intrigue, etc. etc. Donc, c'est à la fois une nécessité d'auteur, et puis quand même, peut-être, une petite provocation, je suis d'accord, pour dire que voilà, le cadre, il est tel qu'il est, mais la transgression n'est jamais très loin, et elle est parfois bénéfique. Et juste un exemple, oui. on dit toujours à un bénévole, tu ne dois pas t'attacher. Mais c'est quasiment impossible de ne pas s'attacher. Même en 5 minutes dans une chambre avec quelqu'un qu'on ne reverra jamais, on crée un lien. À partir du moment où il y a un lien, il y a une attache. Donc il y a quelque chose. Mais c'est fugace. On fait quand même la part des choses. Et quand on sort de là, on oublie, on reprend sa vie et la parenthèse est fermée.
Au moment où Claire rencontre Henri dans sa chambre de fin de vie, cet homme est profondément brisé par le deuil de son épouse. Et je sens spolier le roman, mais enfin, je quand même peux pas cacher que Claire est elle-même oui. en deuil de son jeune époux, Vincent. Et donc, il y a là un terrain. Mais pourtant, elle s'en défend. On sent bien que c'est pas ça qu'elle intérieurement met en avant. Mais autour d'elle, on y pense. Et finalement, elle est presque. On vient presque. Cette histoire vient la chercher dans son propre deuil. Alors ça, c'est une autre dimension de la mise en garde dans le bénévolat d'accompagnement. C'est te projette pas.
Oui, l'effet miroir. On est touché par quelqu'un qui vous ressemble. On peut dire aussi qu'Henri non seulement partage ce veuvage avec elle, et donc elle est ramenée à sa propre histoire, mais on peut dire que c'est également une figure paternelle pour elle. Enfin, il y a plein de projections possibles, et on doit y faire attention, c'est vrai. Mais vous avez raison d'insister sur ce point commun qui est central entre les deux personnages, puisque presque plus qu'un roman sur la fin de vie, c'est un roman sur le deuil. Et d'ailleurs, l'écharpe oubliée, c'est la thématique du deuil au travers de cette écharpe qui fait le prologue du livre et qu'on va retrouver ensuite sous la forme d'un foulard que garde Henri auprès de lui et qui a toute une symbolique. Voilà, donc c'est vraiment cette reconnaissance, cette rencontre sur ce thème du veuvage, enfin, et du deuil qui les réunit et qui fait cette reconnaissance immédiate.
Avec ce qui m'a semblé être une formule pivot qui est apportée, sauf erreur, par une psychologue du service, on ne meurt que vivant.
Oui.
Alors c'est quoi ce « on ne meurt que vivant » Ça c'est sentencieux. Alors qu'est-ce qu'on veut dire là?
Alors on veut dire qu'on n'est jamais mourant, on est vivant jusqu'à la mort. Donc quand on meurt, on est vivant. Bon, ça c'est simple. On ne meurt que vivant, une petite subtilité à laquelle le personnage pense à un moment donné, c'est on meurt d'autant mieux qu'on est plus vivant. Et c'est vraiment cette idée d'intensité de la vie jusqu'à la fin. Une intensité qui se mesurera pas en exploits extraordinaires, mais qui est réelle. On est, on vit, on meurt vivant. Et c'est la leçon, moi, que j'en ai tirée après 10 ans d'accompagnement, c'est cette importance, ultra-importance de la vie jusqu'à la fin, à tel point que même les personnes qu'on accompagne vous parlent beaucoup plus de leur vie que de ce qui les attend. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup frappée. Donc on ne meurt que vivant, on est vivant jusqu'au bout. Et c'est pas une figure de style de le dire, c'est vraiment quelque chose de très concret, de très simple en même temps.
Et de charnière dans votre roman, parce que du coup, Henri, n'étant plus en vie depuis la mort de sa femme...
Exactement, ne peut pas mourir parce qu'il n'est plus vivant. Henri est dans une forme de dépression, on pourrait dire. Mmh. Voilà,
il est en deuil.
Il est en deuil, un deuil qui n'est pas, enfin, qui est encore très vif et qui en cache un autre. Ça, ce sera, mais là, je ne vais pas raconter effectivement le cœur de l'intrigue.
Ne spolions pas la
voilà.
fin.
Mais ce deuil, effectivement, l'empêche d'être pleinement vivant et donc de pouvoir mourir. Parce qu'il réclame la mort. Il l'attend.
Il a demandé la sédation.
Il a demandé une sédation et elle lui a été refusée. Et parce qu'il ne remplit pas les critères d'une sédation. Mais d'abord, parce qu'en fait, ça n'est pas une personne en fin de vie qui serait dans des souffrances intolérables, etc. Enfin, bon, il y a un cadre assez précis. C'est d'abord quelqu'un qui est en deuil. C'est quelqu'un qui a besoin d'être écouté, entendu et accompagné dans ce deuil.
Votre héroïne est très sympathique au lecteur, en tout cas au lecteur que je suis, et notamment parce que vous la mettez en scène dans son métier. Et singulièrement dans ce métier de psychologue, dans l'accompagnement d'un cas particulier d'un jeune garçon qui, dans sa famille, subit une forme de maltraitance. Pourquoi est-ce que vous avez eu besoin de mettre en parallèle ces deux dimensions de l'engagement bénévole et du travail ?
D'abord pour montrer qu'on est bénévole, mais pas que, parce que c'est... Et j'avais envie de montrer clair dans la, dans la globalité de sa vie. Et puis c'est un métier d'accompagnement, de soins, pourrait-on dire aussi, mais qui s'adresse beaucoup plus aux enfants et aux adolescents. Et j'avais envie de quelque chose qui contrebalance la fin de la vie, le début de la vie. Donc elle s'occupe de jeunes enfants et de personnes en fin de vie, avec comme une espèce d'équilibre dans sa vie. Je me suis rendu compte après que j'avais deux prénoms qui commençaient par un H. Enfin, il y a pas mal de choses qui font résonance, mais qui sont pas tellement conscientes. Voilà, c'est tout simplement ce travail auprès des enfants qui m'intéressait. Ensuite, à titre plus personnel, la graphothérapie est un métier que j'ai découvert pour écrire ce livre, et qui est une formidable porte d'entrée de diagnostic parfois de troubles d'apprentissage, qui sont des troubles du développement neurologique, et il y a là-dessus beaucoup de littérature, mais là encore, ce sont des sujets qui m'intéressent et j'avais envie de les creuser. Donc là, c'est vraiment pour le plaisir.
Le livre a 2 ans d'existence maintenant, au moins. Est-ce que, d'après vous, il a suscité des vocations ? C'est un peu difficile peut-être de répondre, mais enfin, de présenter de façon aussi incarnée ce rôle d'accompagnant, ça fait découvrir cette réalité à beaucoup de gens.
Alors oui, je connais au moins un cas qui, après la lecture du livre, a postulé et est maintenant bénévole. Donc effectivement, oui. Ça a en tout cas suscité des vocations, je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être rendu un peu plus familier et moins anxiogène le fait de partir en soins palliatifs, ce que ça représente, la réalité d'un service. J'ai eu beaucoup de lecteurs qui, au départ, étaient très réticents à l'idée de lire mon livre parce que, oulala, la mort, la fin de vie, soins palliatifs, bon, ce sont des mots qui font fuir et c'est au secours. Et qui, en fait, l'ont lu et m'ont dit merci ensuite, en disant ça m'a apporté un peu d'apaisement. Voilà.
Merci, Laure de Pierrefeu, L'écharpe oubliée, City Edition, un roman à lire.
Merci, Christian.
Nous continuons nos programmes avec Halte Spirituelle, Véronique Alzieu.
Raphaël Buise, qui est l'invité de Halte Spirituelle cette semaine, est sensible aux petites choses, aux choses ordinaires. Et c'est là qu'il aime voir Dieu, reconnaître ses traces. Il nous invite à faire de même dans Halte Spirituelle.
Présenté par Véronique Alzieu.
Raphaël Buise, pour conclure ces entretiens, donc on vient de parler de l'Église, en qui on confesse et avec qui on confesse sa foi, on la balbutie, c'est selon. L'Église, c'est aussi celle en qui on vit ou par qui on vit les sacrements. Ceux qui rythment la vie d'un chrétien, oui. En commençant par le baptême.
Oui.
Qu'est-ce que c'est pour vous les sacrements ? Quelle est leur importance dans le quotidien justement de la vie ?
Bon, les sacrements, je dirais, ce sont des paroles et des gestes qui disent quelque chose de bien plus grand. Vous parlez du baptême là, à l'instant, qu'est-ce que c'est le baptême ? C'est sûrement pas un acte magique qui nous fait devenir enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu, on est enfant de Dieu, par nature. Bon. Mais on consent à être enfant de Dieu, on consent à être fils, on consent à être frère. Le baptême, par exemple, c'est vraiment ce plongeon dans la vie de Jésus. C'est être baptisé, c'est plonger dans ce qui a fait le cœur de la vie de Jésus, c'est plonger dans...